Théologie mystique, Père Philippe, Saint Joseph, le 14 novembre 84.
Est-on arrivé aux adieux du Christ à son peuple? Et si vous êtes attentif à l'évangile de Saint Jean tel qu'il nous est transmis actuellement, vous avez deux moments de ces adieux. Je sais très bien qu'au point de vue exégétique aujourd'hui, chez certains exégètes, ils disent qu'il y a des répétitions et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il faut toujours essayer d'abord de comprendre le texte tel qu'il nous est donné. Parce qu'il y a sûrement des raisons, vous comprenez, c'est pas le hasard, puisque le texte de l'Écriture est confié à l'Église, c'est l'Église qui le garde. Alors je crois quand même qu'un texte qui est un texte révélé n'est pas laissé au hasard, pas un cheveu de notre tête ne tombe, hein, sans que le Père Céleste ne le permette. Alors quand il s'agit de la parole de Dieu, c'est encore un peu plus sérieux, n'est-ce pas? Alors je crois qu'on doit d'abord respecter le texte. C'est du reste, je crois, l'œuvre première de l'exégèse. Il respecte un texte. Nous le faisons pour Platon, nous le faisons pour Aristote. On respecte le texte tel qu'il est donné, tel qu'il est gardé par l'Église. Parce que gardé par l'Église, c'est une fonction essentielle de l'Église de garder l'Écriture. Hein, la bonne terre qui garde l'Écriture. Donc ça voudrait dire que l'Église a mal gardé. Ça va très loin, vous savez, comme attitude. C'est oublier que l'Église est conduite par l'Esprit-Saint. Et que la fonction primordiale de l'Église, c'est de garder la parole de Dieu et garder la parole du Christ. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est d'essayer de comprendre l'ordre qui nous est donné selon le texte. Si nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas. On n'est pas obligé de tout comprendre. Il y a des tas de choses que dans l'Apocalypse, on ne comprend pas. C'est bien évident. On essaie. Alors, ici, vous allez le voir, j'ai presque envie, hein, avec vous, d'essayer de ponctuer ce texte, qui est très beau, et qui est très grand. Les adieux du Christ à son peuple, vous comprenez, c'est quand même quelque chose, ça, c'est pas rien. On est très attentif au premier moment du Christ à l'égard de son peuple. Et ça, c'est très important d'essayer de comprendre le moment où Jésus a commencer sa vie apostolique. Jean souligne Cana. Et aujourd'hui, presque tous reconnaissent que c'est Cana le point de départ de la vie apostolique de Jésus. Puis Capharnaüm, puis Nazareth. On a les trois comme ça. Et c'est intéressant du reste de voir l'ordre de charité que Jésus maintient dans sa vie apostolique. Et c'est donc intéressant de voir aussi le dernier moment. Béthanie, c'est des intimes. La foule qui proclame Jésus, c'est le bon peuple d'Israël, remué, secoué par la résurrection de Lazare. Puis les Grecs. Et nous avons essayé de comprendre comment, par rapport aux Grecs, il y a ce rabassis extraordinaire, Jésus donne une vision pour les Grecs, une intelligence du mystère de la croix. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit. Pour essayer de comprendre toute la théologie de la fécondité. La théologie de la fécondité passe par la mort, de fait. On pourrait se demander pourquoi la théologie de la fécondité passe par la mort. Si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit. Et c'est Jésus qui dit ça pour faire comprendre le mystère de la croix. et le mystère de la croix, Jésus devient source de fécondité. À la croix, il est source de fécondité, puisque toute l'Église naît de lui, et tous les sacrements proviennent de la croix et de la blessure du cœur de Jésus, dans la grande vision augustinienne, qui est la grande vision de la tradition. Je crois qu'on peut dire que la mort est nécessaire pour la fécondité, pour l'instrument de Dieu, pour être source de fécondité, il faut être instrument de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est source par lui-même de fécondité, sans la croix. C'est bien évident. Il n'y a pas la croix dans la très sainte Trinité. Et donc le Père est par lui-même source de fécondité pour le Fils. Et le Fils et le Père sont source de fécondité de l'Esprit Saint. Quand il s'agit du mystère du salut de l'homme, la fécondité passe par la croix. Et c'est ce que tous les théologiens, tous les pères de l'Église ont essayé de comprendre, pourquoi Dieu veut sauver les hommes par la croix. Nous y reviendrons quand nous serons face à ce mystère de la croix, parce que c'est quand même très important d'essayer de comprendre de la manière la plus profonde en théologie mystique le pourquoi du mystère de la croix. Saint Thomas a essayé de le faire en théologie scientifique, et je crois que nous devons le faire, nous, en théologie mystique. C'est ce qui me semble être le complément par rapport à ce que nous dit saint Thomas. Pas en opposition, mais en complémentarité. Et la fécondité spirituelle, donc, de Jésus, la fécondité divine de Jésus à la croix, passe par la mort. C'est une volonté de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas une loi naturelle. Faisons grave attention. Il n'était pas nécessaire que Jésus meure sur la croix pour être source de vie divine. C'est-à-dire, il n'était pas nécessaire que Jésus meure sur la croix pour être notre Rédempteur, pour être notre Sauveur. C'est Dieu qui, dans sa sagesse, c'est la très sainte Trinité qui, dans sa sagesse, a voulu ce moyen. L'holocauste de la croix dans l'obéissance. Et ça, c'est une volonté expresse de Dieu. Il y a des raisons de convenance merveilleuses qu'on peut voir, mais c'est une volonté expresse de la sagesse de Dieu. Donc, c'est absolument libre. Dieu aurait pu choisir autrement. C'est pas nécessaire. C'est pas d'une nécessité absolue. C'est très important de comprendre ça, parce que ça nous fait comprendre le choix libre de Dieu. Et ça nous fait comprendre le choix libre de Dieu, ça nous fait découvrir quelque chose de l'amour de Dieu. Toujours. C'est dans un choix, vous savez, un choix libre qu'on découvre l'amour de quelqu'un. C'est pas dans l'ordre de la nécessité. Dans l'ordre de la nécessité, vous découvrez une logique implacable, vous découvrez quelque chose qui est très intelligible, mais vous ne découvrez pas l'amour. Vous ne découvrez l'amour que là où il y a un choix libre. Mais c'est toujours à l'égard d'un choix libre qu'on découvre le mieux ce que représente un amour. Parce que ce choix libre provient d'un amour. Et sa source première, sa cause, c'est l'amour. Et donc, ce choix libre, et je dirais plus il est libre, plus il nous montre la qualité de l'amour. Tandis que la nécessité, c'est du côté de l'intelligence. L'intelligence cherche la nécessité. L'intelligence aime la nécessité. L'intelligence est toujours déroutée par la liberté. Tous les intellectuels sont déroutés par la liberté. C'est normal, ce qu'ils cherchent la nécessité. Au point de vue de leur intelligence. Tandis que celui qui aime n'est pas dérouté par la liberté. Très important de comprendre cela dans notre vie et dans la vie des autres. Hein, Parce que c'est très important de comprendre justement que la liberté, c'est le fruit de l'amour. Hein. Et la liberté exprime le point de vue de l'amour. Et donc, que Dieu ait choisi d'être source de grâce, que Jésus soit source de grâce par la croix et par la mort, c'est une volonté expresse de la sagesse de Dieu. Tandis que pour le grain de blé, c'est une nécessité. Le grain de blé, biologiquement, c'est une nécessité. Hein. N'allez pas voir le grain de blé rester là tel qu'il est, et puis à partir de lui, ça va pousser, et puis vous allez avoir la petite tige. Non, non, il faut qu'il meure. Vous voyez la très grosse différence. Et là, on voit l'analogie. Hein. L'analogie entre le grain de blé et Jésus. C'est que d'un côté, c'est une nécessité, et de l'autre côté, c'est une liberté absolue de l'amour. Donc c'est totalement différent. Et si Jésus prend cet exemple, c'est pour que nous comprenions mieux que ce choix libre a un fondement naturel. C'est pour que nous réfléchissions davantage sur ce choix libre de l'amour, que la fécondité passe par la mort. Vous voyez tout de suite la raison profonde. On ne peut être source de la grâce que si on est un instrument de Dieu, puisque Dieu seul est source principale de la grâce, donc de la vie éternelle, du salut. Il n'y a que la très sainte Trinité qui est cause principale. L'humanité sainte du Christ n'est pas cause principale du salut. C'est le Verbe de Dieu, Fils du Père, qui est cause principale avec le Père, ne faisant qu'un avec le Père. Donc, la nature humaine du Christ ne peut être source de rédemption, source de salut, que d'une manière instrumentale. L'instrument, c'est celui qui n'agit pas par lui-même. C'est celui qui ne se meut pas lui-même, ça c'est le vivant. L'instrument, c'est celui au contraire qui est mu. Alors, pour que nous comprenions bien comment l'humanité sainte de Jésus est totalement instrument, est totalement mu, d'une manière substantielle, pour communiquer une vie éternelle, pour communiquer la grâce. On comprend alors comment il faut la mort pour être totalement dans les mains du Père. Oui, c'est l'exigence d'un instrument de fécondité. C'est l'exigence de l'instrument qui va être source d'une vie plénière, donc source de fécondité. Il faut qu'il meure à lui-même pour porter beaucoup de fruits. Il faut qu'il meure à lui-même, il faut qu'il accepte que ce ne soit plus son œuvre, mais l'œuvre du Père. Par lui. Il faut qu'il ne regarde plus ce qu'il est capable de faire comme un vivant et qu'il accepte d'être entièrement remis entre les mains du Père. Et qu'est-ce qui manifeste le mieux cela ? C'est la mort. C'est la mort qui exprime le mieux cet état instrumental de la nature humaine du Christ. La mort n'était pas nécessaire, mais elle nous manifeste le mieux cela. Parce que Jésus était un instrument parfait, même vivant. Puisque c'est un instrument au plan spirituel. Même vivant. Mais par la mort, il est un instrument au niveau substantiel. et plus seulement au niveau d'une opération et d'un agir. Il est instrument substantiellement. Et s'il est instrument substantiellement, Dieu peut s'en servir pour communiquer une grâce substantielle, une grâce éternelle. Il y a là, je crois, quelque chose que Jésus veut nous faire comprendre. Le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Pour exprimer comment Jésus à la croix va mourir à lui-même, mais pas seulement intentionnellement, mais mourir à lui-même substantiellement dans sa vie humaine pour être totalement l'instrument du Père. Et le Père pourra se servir de lui de la manière la plus forte qu'il soit, un instrument divin. Puisque tout en étant cadavre, il est instrument divin. Puisque le cadavre est le cadavre d'un Dieu. Alors, il me semble que c'est pour exprimer la force de cette fécondité, qui est une nouvelle naissance. C'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de substantiel. Quand Jésus nous fait comprendre que c'est une nouvelle naissance, notre vie et la vie divine, c'est quelque chose de substantiel, la naissance. C'est un nouvel être substantiel, un nouvel être vivant qui a quelque chose de substantiel. La vie divine au niveau de la vie est substantielle, pas au niveau de l'être. Mais au niveau de la vie, elle est substantielle. Et donc il faut un instrument qui soit entièrement remis entre les mains du Père. Dans sa vie, et qu'il soit mort à lui-même, et donc, pour être mort substantiellement à lui-même, ceci réclame la mort. Je crois que nous pouvons dire cela à partir de la parole de Jésus dite aux Grecs. Nous essaierons de mieux comprendre, si vous voulez, quand nous verrons le mystère de la rédemption, mais c'est une annonce prophétique que Jésus fait ici. Et on sent très bien que Jésus insiste, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus n'avait pas besoin de mourir, mais dans sa sagesse, Dieu a voulu qu'il meure, pour nous faire comprendre quelque chose. Pour nous faire comprendre qu'il était source d'un don substantiel. Et qu'il était source d'un don substantiel, et donc il fallait qu'il soit entièrement remis entre les mains du Père, de la manière la plus radicale qui soit, donc en étant un cadavre. Alors à ce moment-là, l'analogie joue avec le grain de blé. Qui aime son âme la perd, et qui est son âme en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Donc de nouveau, là, l'application est la conséquence immédiate. Si nous devons être instruments de grâce pour vivre de la fécondité du mystère de la croix, il faut que nous-mêmes, nous soyons dans cette attitude de celui qui a offert sa vie. Alors, pour offrir sa vie, il faut justement la dépasser. C'est pour ça que celui qui aime son âme la perd. Celui qui aime son âme ne peut être que cause seconde. Il ne peut pas être un instrument entre les mains du Père. Il y a un instrument entre les mains de Jésus. Et donc, il ne peut pas être source de fécondité divine. Il faut qu'il meure à lui-même. À la suite du Christ, de la même manière. Vous voyez, ça explique toutes les purifications radicales qui font que nous mourrons à nous-mêmes. Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais l'Esprit-Saint peut le faire. Alors, évidemment, ce n'est pas très, très réjouissant, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas très réjouissant non plus quand Jésus dit « Qui aime son âme la perd, qui est son âme en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. On ne peut pas se sauver sans sauver les autres. Alors là, c'est aussi le grand mystère. Pour recevoir la plénitude de la grâce, donc la vie divine, substantiellement, il faut être mort à soi. Comment on ne peut pas la recevoir ? Il ne peut pas y avoir deux vies en même temps. C'est impossible. Donc il faut mourir à soi-même pour être capable de recevoir cette grâce substantielle. Et c'est en mourant à soi-même et en recevant cette grâce substantielle, c'est-à-dire en étant celui qui est dans cette attitude de réceptivité fondamentale, une réceptivité substantielle, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est une réceptivité substantielle. D'habitude, on a une réceptivité accidentelle, on n'a pas une réceptivité substantielle. Or, il faut avoir cette réceptivité substantielle si on veut recevoir la vie que Jésus nous donne du haut de la croix. Puisque c'est une vie éternelle, donc c'est une vie substantielle. Autrement, elle ne serait pas éternelle. Alors, il faut cette réceptivité. Et c'est pour ça que Jésus souligne qui aime son âme, la Père, qui est son âme en ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Ça va très loin. C'est peut-être l'endroit le plus explicite, vous voyez, au point de vue théologique, de ce que représente le mystère de la mort du Christ pour la fécondité. Et Jésus dit ça aux Grecs, c'est normal que ce soit l'endroit le plus explicite, puisque les Grecs ont soif du Logos. Ils croient, mais ils veulent comprendre dans leur foi. Et Jésus donne cette analogie, cette explication merveilleuse, pour que nous allions le plus loin possible dans ce mystère de Jésus à la croix, source de vie divine. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, on ne peut servir le Christ qu'en le suivant. Suivre l'agneau partout où il va. C'est-à-dire être relatif à lui. C'est ça que ça veut dire, le suivre, être relatif à lui. Donc, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, qu'il me soit totalement relatif. Le serviteur, c'est celui qui a toujours les yeux tournés vers son maître et qui ne fait rien sans avoir ce regard sur son maître. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, moi, là sera aussi mon serviteur à moi. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors là, c'est aussi très étonnant. Le Père qui honore le serviteur de Jésus. Honorer quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, honorer quelqu'un ? Honorer quelqu'un, c'est le mettre en pleine lumière et ne regarder que lui. Quand vous regardez quelqu'un en référence à quelqu'un d'autre, vous ne l'honorez pas. Tandis qu'au contraire, lorsque vous regardez quelqu'un pour lui-même et que vous le mettez en pleine lumière, vous l'honorez. Vous manifestez donc toute sa grandeur. Honorer quelqu'un, ça implique la louange et ça implique de le montrer dans son absolu. On n'honore qu'une personne, on n'honore pas un outil, sauf dans les musées. À ce moment-là, c'est autre chose. Un outil, vous ne l'honorez pas, vous en servez. Vous n'honorez pas un serviteur d'habitude, vous vous en servez. Honorer un serviteur, c'est justement faire que ce jour-là, il n'est plus serviteur et vous le remerciez d'avoir été un bon vieux serviteur fidèle. Et à ce moment-là, vous mettez une décoration et vous l'honorez. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous le coupez du service et vous lui mettez en pleine lumière une auréole autour de la tête. Alors à ce moment-là, vous l'honorez. Alors, c'est extraordinaire de voir ça. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, si quelqu'un suit Jésus, si quelqu'un est tout entier relatif à Jésus, le rôle du Père est de montrer qu'il le regarde pour lui-même en l'aimant. Être aimé du Père, c'est être honoré par le Père. Alors, immédiatement, il y a dû avoir un silence. Maintenant, mon âme est toute troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Donc, le trouble du Christ, on peut dire que c'est un mystère d'agonie. C'est déjà dit, Saint Jean ne parle pas du mystère de l'agonie séparée, mais il nous montre constamment l'âme du Christ agonisante. Chaque fois que Jésus est en présence de son heure, il entre en agonie. Alors comprenons bien, le mystère de l'agonie, c'est un mystère, ce n'est pas simplement une angoisse. Parce que l'angoisse n'est pas un mystère. C'est un gros problème pour nous. Mais ce n'est pas un mystère. Tandis que le mystère de l'agonie est un mystère. Donc ça doit se comprendre dans la lumière de la charité. C'est parce que Jésus porte l'iniquité du monde et donc que Jésus connaît la séparation à l'égard de Dieu. Et c'est ça le mystère de l'agonie. C'est de comprendre comment le mal sépare de Dieu. Comment le péché sépare de Dieu. Et il est en agonie dans la mesure même où il est séparé de Dieu, où il vit cette séparation dans l'amour. Maintenant, mon âme est toute troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Et voilà pourquoi je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors ça, c'est la grande victoire. Jésus ne demande plus que l'heure soit écartée, mais il demande un surcroît d'amour. Père, glorifie ton nom, puisqu'il est venu pour cette heure. Vint donc une voix du ciel, je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. Donc, mystère de l'agonie, mystère du Tabor, c'est-à-dire la présence du Père. Et les deux sont liés ici, pour montrer qu'on entre dans quelque chose d'ultime. Durant toute sa vie apostolique, il y a tout un aspect de pédagogie divine. Tandis qu'au contraire, dans la dernière semaine, la pédagogie est dépassée. On est en présence du mystère qui se réalise. On vit le mystère. Et alors c'est pour cela, je crois, que le point de vue de l'agonie et le point de vue du Tabor sont intimement liés. La foule donc qui se tenait là, y avait entendu, disait, c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Et Jésus répondit et dit, ce n'est pas pour moi que cette voix est advenue, mais pour vous. C'est maintenant le discernement de ce monde, le jugement de ce monde. C'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il disait cela pour signifier quel genre de mort il devait mourir. Je n'insiste pas, je l'ai déjà vu la dernière fois, cela. Donc c'est simplement toutes les herméneutiques, c'est toujours intéressant de voir ça, que Jean est très très attentif à ça, les diverses manières dont on interprète un fait très curieux, insolite, devant lequel on se trouve. Les interprétations multiples des apparitions, par exemple. C'est tout à fait ça. Alors, il y a des mouvements différents. Alors, on aimerait que le Saint-Esprit, en dernier lieu, en donne l'interprétation. Vous voyez, ici, Jésus peut la donner, l'interprétation. Alors, c'est parfait. Alors, les interprétations précédentes sont complètement dépassées par l'interprétation du Christ. Mais c'est peut-être très important de comprendre la manière dont Jésus interprète des faits. Parce que c'est pour nous, ça. Ce n'est pas pour moi que cette voix est advenue. Mais pour vous, toutes les apparitions, c'est pour nous. Tous les faits particuliers et insolites qui arrivent, miraculeux, c'est pour nous. Et c'est toujours en vue du mystère du jugement, c'est-à-dire du retour du Christ. Alors, on nous montre ici ce que l'Apocalypse montrera par rapport à l'Église. Jésus nous montre ici l'aspect si important du moment dans lequel on est. C'est maintenant le discernement de ce monde. Le jugement, discernement. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté bas, dehors. Le jugement qui se passe à la croix, et le jugement dernier qui se passera pour l'Église, il y a une analogie entre les deux, il faut mettre très nettement ces deux jugements en parallèle si on veut comprendre quelque chose, c'est de nous montrer l'œuvre du démon dans le monde, et de nous montrer comment l'homme, créé à l'image de Dieu, est sous cette emprise terrible du chef de ce monde. Le démon est le chef de ce monde. Alors comprenez bien le monde dans le sens auquel il est ici. Le monde ici, ce n'est pas les hommes. Il ne faut pas dire que le démon est le chef des hommes. Ce serait très faux. Il est chef de ce monde. C'est-à-dire, il est le chef du monde qui est mu par lui, qui est sous sa mouvance. Dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, où c'est dit explicitement. Nous comprenons bien comment le démon se dit le chef de ce monde lorsqu'il domine par les trois concupiscences. Alors à ce moment-là, il domine le monde, les hommes sont dans la lutte, ou les hommes abdiquent en face de ce pouvoir démoniaque. C'est maintenant le discernement de ce monde, c'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Jésus crucifié est pour nous notre salut. La cause de notre salut. Il nous finalise. Il est notre bien et c'est pour ça qu'il nous attire. L'attraction, elle est réservée au Père. Et si Jésus, à la croix, nous attire, c'est qu'il est vraiment le Père. Source du salut et notre fin, notre bien. La foule lui répondit donc: nous avons appris de la loi, nous, que le Christ demeure à jamais. Comment alors peux-tu dire, toi, qu'il faut que soit élevé le Fils de l'homme ? Qui est-il, ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit donc: pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Voyez la réponse de Jésus, hein ? C'est pas directement une réponse. Mais c'est éveillé dans le cœur de ceux qui l'écoutent, cette foule, éveillé ce qui reste encore d'amour. C'est ça qui est très beau. Jésus sait qu'ils sont incapables de recevoir la vérité. Mais ils sont peut-être encore capables d'un mouvement d'amour. Et Jésus veut éveiller ce mouvement d'amour en montrant qu'on est tout proche de la séparation. Voyez, tout change quand on est en présence d'une séparation. Ce n'est plus le temps de discuter. Il y aura un moment où ce ne sera plus le temps de discuter. Et peut-être que nous y sommes. Où il n'y aura plus qu'à aimer. L'Église a dû discuter beaucoup au cours des temps. Mais il y aura un moment où il n'y aura plus qu'à aimer. C'est l'attente dernière, ultime. Je crois que c'est ce que nous enseigne le Concile, ça. Ce n'est pas une abdication par rapport à l'autorité ou par rapport à la doctrine, mais c'est pour comprendre qu'on est en face de quelque chose d'ultime. C'est très significatif, si vous essayez de comprendre un tout petit peu ce que représente cette interrogation de cette foule et la réponse de Jésus. Ça paraît complètement inadéquat, Jésus n'entend pas cette foule, il l'entend. Mais il ne lui répond pas comme cette foule voudrait qu'il lui réponde. Il lui répond de façon beaucoup plus profonde. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit agit avec nous. Et c'est pour ça qu'on est dérouté. Pourquoi tellement, il y en a tellement qui sont déroutés en face du Concile. Des braves gens. Ils ne comprennent pas que l'Esprit Saint peut à un certain moment demander que ce soit l'amour qui passe dessus, qui passe devant. Jésus leur dit donc, pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez quand vous avez la lumière. Quand on discute, on s'arrête. Et on ne veut pas marcher, on discute. Marchez quand, tant que vous aurez la lumière. Ce sont les derniers pas. Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Donc, il montre bien la séparation imminente. Et cette séparation imminente réclame une attitude de très grande fermeté, d'être totalement engagé, et non pas une attitude de celui qui a le temps et qui discute. Pour discuter, il faut avoir du temps. Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez quand vous avez la lumière. De peur que les ténèbres ne vous arrêtent. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Quand vous avez la lumière, croyez en la lumière pour devenir des fils de lumière. Voilà ce qui est important. C'est de recevoir cette lumière pour devenir des fils de lumière. Je crois que ça, c'est très, très, très actuel pour nous, vous voyez. C'est quand on est dans la séparation ultime, il n'y a plus à discuter. Alors que la foule réclamait ça. Et Jésus montre qu'il y a quelque chose de plus. Jésus parla ainsi, et s'en allant, il se déroba à leur vue. Donc c'est bien le départ. Alors on pourrait mettre point terminal, réflexion du théologien. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Pour que la parole qu'avait dit Isaïe, le prophète, s'accomplisse. Ce passage est très important parce que c'est le jugement de Jean sur cette conduite mystérieuse de Dieu, cette économie divine à l'égard de son peuple. Et comme Jean est très lié au peuple d'Israël, plus que les autres, c'est sûrement Jean qui est le plus lié. Il était chez lui, hein, auprès du grand prêtre. C'est comme ça qu'il a permis à Pierre d'entrer. ce qui prouve qu'il avait des amitiés, c'est très difficile de savoir exactement, mais il y avait sûrement un lien. Bien qu'il eût tant, alors on comprend la souffrance de Jean à l'égard de son peuple. Et on comprend alors cette espèce de réflexion du théologien à la fin de sa vie, Jean à la fin de sa vie, qui réfléchit sur cette séparation qui se fait de plus en plus grande entre le peuple d'Israël et l'Église naissante. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui pour que la parole qu'avait dit Isaïe le prophète s'accomplisse. Vous voyez que Jean ne juge pas. Et Jean montre qu'on ne peut pas juger, qu'on est en face d'un mystère de l'accomplissement d'une prophétie. On est en face de l'accomplissement d'une prophétie. Donc une prophétie, c'est Dieu qui nous révèle la manière dont il conduit. Et cette prophétie d'Isaïe montre la manière dont Dieu conduit le peuple d'Israël face au mystère de Jésus. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? Ce grand point d'interrogation du prophète Isaïe par rapport au peuple d'Israël, son peuple. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? Voilà pourquoi il ne pouvait croire, parce que Isaïe a dit encore, il ne pouvait croire. Jean ne dit pas, ils ont désobéi, ils ont été infidèles, il dit, ils ne pouvaient croire. Ils étaient comme dans un état où ils ne pouvaient plus croire. Très mystérieux, ça. Ça demande... Il faut y revenir souvent, à ces textes. Et ce texte est très, très important. Parce que c'est peut-être le texte le plus profond. Il faudrait regarder ici tout ce que saint Paul nous dit sur le peuple d'Israël. Et sur la conversion du peuple d'Israël. Mais il y a dans le texte ici de saint Jean une profondeur. C'est le regard de la sagesse. C'est le regard du théologien. Une profondeur unique pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas juger. Et vous voyez, Vatican II revient sur cette attitude-là. Par rapport au peuple d'Israël. Pendant tout un certain temps, on voit très bien les luttes qui ont existé entre l'Église et Israël, ça a été des luttes et des condamnations et des oppositions. L'Église, actuellement, prend une attitude très différente, comme si elle revenait aux paroles de saint Jean, en essayant de comprendre qu'il y a là un mystère, un grand mystère. Que nous ne pouvons pas, en tant que théologiens, résoudre. Mais résoudre, ce serait tout simplement d'expliquer, mais oui, alors on explique, le peuple d'Israël ne pouvait, par jalousie, a rejeté le Christ, vous voyez, alors vous condamnez. Oui, vous pouvez le dire pour les grands prêtres. Vous pouvez parler de la lâcheté de Pilate, oui, très bien. Mais le peuple d'Israël, c'est autre chose. Ce n'est pas les grands prêtres. C'est autre chose. Il y a eu un grand mystère de cécité. Voilà pourquoi ils ne pouvaient croire. Parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux. et ne comprennent pas avec leur cœur et ne reviennent pas et je les aurai guéris. La miséricorde de Dieu est toujours là et je les aurai guéris. Il y a eu comme une espèce de cécité voulue par Dieu qui les a empêchés de venir vers Jésus. Il a aveuglé leurs yeux. Alors évidemment, comprenons bien, ce n'est pas un mystère de réprobation. Non. C'est un mystère d'éloignement. Comment le peuple d'Israël n'a pas reçu celui qui venait en premier lieu pour lui. Il n'a pas reçu. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et ne comprennent pas avec leur cœur. Vous voyez bien l'opposition ici, très belle, entre les yeux et le cœur, hein, pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et ne comprennent pas avec leur cœur. Voir et comprendre, hein, comprendre en profondeur, comprendre dans l'ordre de l'amour, et ne reviennent pas, et je les aurai guéris. Isaïe a dit cela parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne se déclarait pas de peur d'être exclu de la synagogue. Car il préférait la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Ça, c'est la réflexion du théologien. Jean le théologien. Je crois que c'est très, très grand, ça. Pour nous apprendre, avoir la véritable vision que nous devons avoir vis-à-vis d'Israël. Ne jugeons pas et mettons toujours devant nos yeux ces paroles de Saint Jean. Ça, c'est sûr que pour nous, ce sont ces paroles de Saint Jean qui doivent nous apprendre à avoir un regard vrai vis-à-vis du peuple d'Israël. Ne pas tomber dans un jugement rapide, qui serait faux, qui serait passionnel, et qui ne serait pas selon l'économie divine. Il faut remonter jusqu'au mystère de l'économie divine et de voir comment Dieu a permis que son peuple, préparé pendant 2000 ans, préparé avec tant d'amour, au moment précis où le Messie arrive, il s'écarte. Alors que Jésus n'avait qu'un seul désir, c'est de les guérir. C'est important parce que dans d'autres endroits, Jésus explicite nettement, hein, que c'est l'orgueil qui empêche de recevoir. Ici, on ne parle pas de cela. On ne parle que de fait, cette miséricorde de Jésus qui ne peut pas être reçue à cause d'une volonté de Dieu. Alors comprenons ce langage symbolique, c'est un langage symbolique, c'est évident. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et ne comprennent pas avec leur cœur et ne reviennent pas. Donc, on voit comment Dieu les a tenus loin Alors, mettez ce que saint Paul nous dit ensuite, pour que les goïms puissent recevoir, pour que les païens puissent recevoir l'évangile. Il y a comme une espèce d'effacement de mort pour la fécondité. Participation, là aussi, au mystère de Jésus, sans le connaître. Mais c'est quand même ça qui est présent. Hein. Il y a une espèce de mort profonde pour que les goïms, tous les autres peuples, puissent recevoir le message du Christ. Si le peuple d'Israël avait reçu le message du Christ, les nations, les païens n'auraient pas pu le recevoir en premier lieu. Et Dieu voulait qu'ils le reçoivent en premier lieu. Et que d'une certaine manière, il y ait ce mystère d'attente du peuple d'Israël. C'est un mystère d'attente. Parce que les grâces de Dieu sont sans repentance. Et donc la grâce de Dieu à l'égard du peuple d'Israël, qui est la grâce de la foi en la parole de Dieu, ces grâces sont sans repentance. Donc Jésus, Dieu veut qu'un jour, Israël puisse reconnaître le Messie. Puisqu'il lui a donné cette grâce de fils aîné dans l'ordre de la parole, dans l'ordre de la foi. Il faut que le cadet passe devant. Toujours la même loi du fils aîné et du cadet. Il faut que le cadet passe devant, mais n'exclut pas le fils aîné. Et le fils aîné recevra, lui, la lumière quand Dieu le voudra. Grand mystère, hein, du retour d'Israël. Alors c'est dit, vous voyez, avec une discrétion, mais une force étonnante. J'allais dire, Jean aurait été le seul théologien qui aurait pu juger. Le seul. Parce qu'il était tellement proche et qu'il avait vécu tout ça. Et à la fin de sa vie, il aurait pu juger, il aurait pu nous donner, oui, il y a eu un orgueil tel que, non, il ne juge pas. Il se tait. Dans la dernière semaine, vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on juge, mais qu'on regarde quelque chose de plus, l'économie divine, la volonté de la sagesse de Dieu par rapport au peuple d'Israël. Ça me semble très fort, ça. Au point de vue théologique, vous voyez. Au point de vue théologique, pour comprendre l'attitude de l'Église à Vatican II. C'est nettement dans cette lumière-là. Si vous ne vous mettez pas dans cette lumière-là, alors vous viendrez comme des quantités. On en entend tout le temps, cela. Hein, qui ne veulent pas abdiquer une certaine opinion théologique qu'ils ont reçue de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père. Et ils ne veulent pas abdiquer, ils ne veulent pas comprendre que l'Esprit Saint réclame actuellement de l'Église et des théologiens la mort à cette opinion, pas à cette vérité, mais à cette opinion. Pour entrer dans un nouveau regard sur le peuple d'Israël. Ce n'est plus le même regard, c'est un autre regard. Et c'est un regard qui consiste à ne pas juger, à comprendre que Dieu demande à ce peuple, s'il le comprend, s'il ne le comprend pas, il lui demande cette attente, laisser passer devant le Benjamin. Et pour le laisser passer devant, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur. pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur et ne reviennent pas. Et je les aurais guéris. Je les aurais guéris, c'est très important, parce que ça montre que les grâces de Dieu sont sans repentance. Et dès qu'ils reviennent, je les aurais guéris. Jésus attend, du moins, Dieu attend dans la miséricorde. Je les aurais guéris. Alors, en mettant en parallèle, encore une fois, cette grande affirmation de saint Paul, les grâces de Dieu sont sans repentance. Jésus cria et dit, alors, vous voyez, le jugement du théologien est entre deux regards du Christ sur son peuple. Alors on dit c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Jean a été trop vite à écrire ça. Non, il aurait dû mettre l'ultime regard du Christ sur son peuple. Et pourtant non, Jean a mis ce regard à ce moment-là pour nous faire comprendre tous les sentiments du Christ. Jésus cria et dit, « Qui croit en moi ? Ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. » Alors, vous voyez, je crois qu'il faut bien saisir, et ça, c'est constamment comme ça dans l'évangile de Jean. C'est du reste comme ça dans la vie. Quand vous dites au revoir à quelqu'un que vous aimez beaucoup et que cet au revoir est un peu tragique, vous y revenez deux fois. Vous ne dites pas qu'un seul revoir. Un seul revoir, c'est quand tout va bien et qu'on fait une petite distance, un petit rien du tout. Hein. Je vous dis au revoir, je reviendrai demain, je me sens bien. Alors ce soir, je reviendrai après-demain. Mais quand c'est un au revoir tragique, et c'est un au revoir tragique, Jésus sait ce qui va se passer. Alors, on s'y prend deux fois. Et on voit très bien, c'est pas du tout illogique, hein. Jésus parla ainsi, et s'en allant, il se déroba à leur vue. Jésus cria et dit, on comprend très bien ça, il faut presque être loin, parce que quand on est trop proche, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et certaines choses, on ne peut les dire qu'un peu loin. Jésus cria et dit, je crois qu'il y a ça qui est voulu. Et ça, c'est tout à fait normal dans un départ qui est un départ... Pour le cœur du Christ, c'est terrible ce départ. C'est terrible de quitter son peuple dans cette liberté, si vous voulez, que son peuple a et que lui-même a. C'est le dernier moment où Jésus est en présence de son peuple, dans sa liberté, lui faisant partie du peuple d'Israël, lui étant l'un d'eux. Après, il sera considéré comme n'étant plus de ce peuple. Et donc, il y aura un abîme entre les deux. Et le peuple ne pourra pas franchir cet abîme parce qu'il y aura l'autorité religieuse qui l'empêchera. Jésus cria et dit, « Qui croit en moi ? Ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » On comprend très bien. Là, Jésus répond. Il ne fait plus qu'un avec le Père. Il n'est qu'un avec le Père. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les observe pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus ne condamne plus. Il ne veut plus condamner. Mais il veut sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai dite, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car moi, ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé. Et c'est celui qui m'a envoyé, le Père, qui m'a commandé. qui m'a commandé lui-même ce que je devais dire et exprimer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce que moi je dis, comme le Père me l'a dit, ainsi je le dis. Vous voyez, ces dernières paroles montrent l'unité de Jésus avec le Père. Il rappelle cela. Pour essayer une dernière fois d'enlever l'obstacle.